Ma première question, c'est est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont jamais entendu parler de non-dualité ? Oh, génial. Vous ? Personnellement, j'aime bien parler, c'est un terme que j'ai pris à Jean-Marc Montel, de perspective non-duelle. Parce que, pour moi, il s'agit plus d'un changement de perspective que de quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que, d'une façon générale, on est comme collé au phénomène existentiel. Et on croit qu'on est ce corps, qu'on est nos pensées, que nous sommes nos émotions, nos sensations, nos perceptions, que c'est notre histoire, notre vie, etc. Et on est collé au phénomène existentiel. C'est un petit peu comme si le champ de vision se rétrécissait à sa plus simple expression « moi », ou plus exactement l'idée d'un « moi ». Et la perspective non-duelle dit « mais attendez, vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Vous êtes ce que vous cherchez, vous êtes ce que vous avez toujours cherché. Vous êtes exactement tout ce que vous espérez être. Regardez. Arrêtez de croire que vous êtes ce que vous croyez être. Arrêtez de croire que vous êtes ce corps, ces émotions, ces pensées, etc. Regardez tout ça de près et vous allez vous apercevoir qu'en réalité, ce que vous croyez être ne fait qu'apparaître au sein de ce que vous êtes. Ce n'est qu'une apparition au sein de ce que vous êtes en réalité. Et ce que vous êtes en réalité, eh bien, c'est bonheur, paix, joie, amour, sérénité, calme, etc., etc. Voilà. La seconde chose qu'on va voir, qui pour moi est absolument essentielle, c'est que ce qui fait qu'on l'en est collé, il y a plusieurs choses, mais l'une des choses qui fait qu'on n'arrive pas à se décoller, c'est l'idée d'un moi. On croit en un moi, individus séparés. Nous croyons que nous sommes des individus séparés. C'est-à-dire que nous croyons que nous pensons par nous-mêmes, que nous faisons des choix par nous-mêmes et que nous agissons par nous-mêmes. Et j'ai pas mis la caméra en rouge. Nous croyons que nous pensons par nous-mêmes, que nous faisons des choix par nous-mêmes et que nous agissons par nous-mêmes. Et que cela qui fait tout cela, ça s'appelle un moi. 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 Mais enfin, c'est quand même moi qui l'ai fait. Mais enfin, c'est moi qui dis ça, c'est pas toi. Mais enfin, c'est moi qui ressens ça, c'est pas toi. Sauf que toutes ces phrases sont basées sur la croyance en un moi. Et dès l'instant où on croit en un moi, eh bien, on restreint son champ de conscience, on restreint sa vision, son regard. Et alors, on ne voit plus que ce qui émerge ici, comme si c'était nous. En réalité, c'est pas comme ça. En réalité, il n'y a pas de moi. Il n'y a pas d'individu qui pense. Il n'y a pas d'individu qui fait des choix. Il n'y a pas d'individu qui pose des actes. Il y a des pensées qui apparaissent. Il y a des choix qui se font. Et il y a des actes qui sont posés par personne. Et en réalité, non seulement il n'y a pas de moi, mais en plus, il n'y en a jamais eu. Et comme il n'y en a jamais eu, aucun moi n'a jamais rien fait. Et vous n'avez jamais rien fait. Vous, individu séparé, n'avez jamais rien fait parce qu'il n'y a pas d'individu séparé. Et pareil, qu'est-ce qui va nous permettre de réaliser cela ? Parce que le croire sur parole, ce que je vous dis, ce serait juste une croyance de plus, ça n'a aucun intérêt. C'est le regard. C'est le regard qui va nous permettre de comprendre, voir, réaliser qu'en réalité, il n'y a pas de moi qui en a jamais eu. Et qu'en réalité, nous sommes le bonheur que nous cherchons. Nous sommes la paix, la joie, l'amour, etc. que nous cherchons. Que rien ne nous a jamais manqué. Qu'il n'y a jamais eu de séparation. L'idée de séparation, l'idée de manque ne sont que des idées, que des pensées crues à tort. Parce que c'est conditionné, parce qu'on nous a appris ça, parce qu'il y a un mécanisme presque automatique qui consiste à croire dans les pensées, à croire dans les sensations, à croire dans les émotions, à croire dans les perceptions. Alors qu'en réalité, ça ne dit rien de ce que nous sommes. Voilà. C'est clair ? j'ai fait le tour, à vous. Maintenant, on part. Partant de là, moi, ce qui m'intéresse, c'est, mais vous, où est-ce que ça vous laisse, ce que je dis ? Peut-être aussi, qu'est-ce qui vous amène ici ? Ouais, ça fait deux questions, oui.
Qu'est-ce qui croit ou ne croit pas en l'existence d'un moi séparé ?
Qui est-ce qui croit ou ne croit pas en l'existence d'un moi séparé ? Cette question commence par un qui ? Il n'y en a pas. Ça croit, de fait, en des pensées, dont l'existence en un moi séparé. Il y a apparition d'une pensée, il y a saisie de la pensée. Alors on pourrait dire la conscience, le l'être, le... C'est des réponses qui ne me satisfont pas. Je préfère juste laisser un ça impersonnel, comme un mécanisme automatique. Qui est-ce qui fait pousser les arbres ? Il n'y a pas un qui fait pousser les arbres. Les arbres poussent d'eux-mêmes. Et les pensées sont crues de la même manière.
Croire est une chose. Et croire est une autre chose. Il me semble que croire est une opération qui est ressemble à une opération mentale.
Je ne suis pas sûr à 100% de la réponse, mais ce n'est pas l'impression que j'ai. L'impression que j'ai, c'est que la croyance se fait de façon automatique. Un peu comme un, pour moi, c'est plus comme un conditionnement. D'une façon générale, on nous a appris à croire dans nos pensées. On nous a appris à croire qu'on était responsable de ce qu'on faisait, même de ce qu'on pensait, ou de ce qu'on disait, de nos choix, etc. On nous a appris cela. C'est un conditionnement. Bon, je les vois plus comme des automatismes. Des automatismes de croyance. Tiens, les pensées apparaissent, et d'une façon générale, elles sont crues de façon quasi automatique. Le plus souvent de façon automatique. À aucun moment, elles ne sont perçues comme de simples pensées. Elles ne sont regardées comme de simples pensées. Par exemple, la pensée « moi », puisqu'on en parlait tout à l'heure. On croit qu'on a un « moi ». Qui, un jour, s'est posé la question spontanément comme ça ? Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a un « moi » ? Il y a la pensée « moi », l'idée d'un « moi », et c'est cru de façon automatique. On se sent triste. Ben, je me sens triste. Est-ce que quelqu'un s'est un jour posé la question « mais qui c'est le « moi » qui se sent triste ?» Et qu'est-ce que c'est la tristesse ? Qu'est-ce qui fait dire triste ? Il ne faudrait pas que ce soit comme ça. Nos opinions politiques, ou n'importe. Tout ça, c'est cru de fait. À quel moment on se dit, mais qu'est-ce qui me permet de savoir que c'est vraiment vrai, que je suis triste, ou que mes opinions politiques sont les bonnes, ou que ce serait mieux si, ou que... Souvent, le plus souvent, ce n'est pas regardé. Il y a une pensée qui apparaît, elle est prise pour la vérité. Est-ce que c'est vrai que la pensée... Est-ce que c'est vrai que la pensée est fabriquée par le cerveau ? Qu'en savez-vous, en réalité ? C'est une autre question. Mais qu'est-ce qui prouve que les pensées sont pensées par le cerveau ? En réalité, rien. C'est une croyance. Personnellement, j'ai plus l'impression qu'il y a des pensées qui apparaissent comme il y a des sensations qui apparaissent. À tout moment, on a des sensations dans le corps. Si vous regardez votre corps là maintenant, il y a plein de sensations. Dans tous les coins du corps. Et si vous regardez les perceptions, à la fois vous entendez ma voix, mais il y a un bruit de fond, il y a la lumière, il y a des craquements de chaises, il y a tout à la fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout le temps, il y a des pensées. Mais le plus souvent, la plupart des sensations, des perceptions, on n'y fait pas attention. Et la plupart des pensées, on n'y fait pas attention. Et puis, ça me gratte fort. Alors ça, je gratte, enfin le corps se gratte. Et puis, je ne sais pas, n'importe quoi. Il y a quelque chose qui attire mon attention, et l'attention est attirée. Et il y a une pensée qui attire l'attention, et elle est saisie et elle est crue. Pour moi, c'est le... les pensées sont perçues, on pourrait dire. C'est le même niveau de réalité.
On pense pas la même chose au même moment.
Qu'est-ce qu'on en sait ? D'abord, ça arrive qu'on pense la même chose au même moment.
C'est sûr, ça peut arriver, mais pas forcément.
Pas forcément. Et alors ? Est-ce que ça prouve qu'il y a un moi ? Est-ce que ça prouve que vous pensez vos pensées ? On ne ressent pas la même chose dans le corps non plus. On ne perçoit pas la même chose. Je suis en face de vous, je ne peux pas avoir les mêmes images dans les yeux. Ce qui se passe, c'est que d'une façon générale, on a l'habitude de concevoir les choses à partir de cet organisme. Identifié à cet organisme. On croit qu'on a cet organisme et que tout arrive à partir de cet organisme. Et si ce n'était pas vrai ? Et si en réalité l'organisme apparaissait en ce que je suis ? Ne me croyez pas sur parole.
Non, mais je sais, mais ça fait des années que je me torture avec ça.
Oula, arrêtez tout de suite.
J'arrive pas.
Vous n'arrivez pas à quoi ?
À me dire, je ne peux pas identifier séparé, quoi. Je sens quand même.
Mais évidemment que cet organisme est séparé de cet autre organisme.
Oui.
Et évidemment que c'est pas parce qu'on a réalisé qu'il n'y a pas d'individu séparé qu'on va rentrer dans les arbres. On va les contourner encore quand on se promène. La réalité existentielle, elle demeure. Et évidemment que l'organisme demeure. Mais cet organisme vit en ce que je suis, de même que celui-là, ou que celui-là, ou que le monde entier. Et évidemment qu'il reste une part d'identification à cet organisme. Sinon, je ne répondrai pas à l'appel de mon nom. Et, simultanément, ici, je dis ici parce que c'est moi qui parle, mais vous pouvez demander à n'importe quel autre, hein, ils vont dire la même chose, ici, ça ressemble beaucoup de choses de ce qui se passe dans la salle et ailleurs, etc. Même avec des gens qui ne sont pas présents physiquement et que j'ai jamais vu, il y a plein de choses qui sont sues en ce que je suis, on va dire en moi, parce que c'est une facilité langagière qu'on va garder. Mais ce coup-ci, je parle plus d'un moi individu séparé.
Le voyant ultime, il n'y a pas de limite.
Pardon ?
Le voyant ultime de l'ensemble de la conscience de l'être, le localiser, ou est-ce que finalement, est-ce qu'il appartient au royaume de l'être ?
De l'être ?
Oui, le fait d'être.
Ah, une question intéressante. Pour moi, il y a plusieurs choses. Et si vous pouvez au moins mettre les tables de téléphone sur vibreur ou les couper, c'est gentil. Merci. La première chose quand on commence, par exemple, cette démarche, ce qu'on voit tout d'abord, c'est qu'il y a saisie. C'est-à-dire que nous croyons être ce corps, nous croyons nos pensées, nous croyons que nous posons des choix, que nous posons des actes, etc. Et le premier regard, c'est « Mais regarde, est-ce que c'est toi qui penses ou est-ce que les pensées apparaissent en toi ? Est-ce que tu fais des choix ou est-ce que les choix se font ? Est-ce que tu poses des actes ou est-ce que les actes sont posés ? Et par exemple, cette phrase, je n'ai à aucun moment choisi de la prononcer. À aucun moment, je n'ai choisi de bouger ma main de cette manière. Ni de prendre le ton de voix que je prends. Tout ça se fait de lui-même. Tout ça arrive de lui-même. C'est la première constatation. La deuxième constatation, parmi toutes ces croyances, il y en a une qu'on va regarder, c'est la croyance en un moi. Est-ce qu'il y a un moi, oui ou non ? Individu séparé. D'accord ? Et puis, le regard va se retourner sur lui-même. C'est-à-dire que je suis conscient. Mais je suis conscient d'être conscient. Ou, il se passe telle et telle chose. Cela est constaté. Qu'est-ce qui le constate ? Qu'est-ce qui est conscient d'être conscient ? Ou, dit autrement, essayez d'arrêter d'être. Est-ce que vous y arrivez ?
C'est impossible.
C'est impossibilité
qui est...
Voilà. Et alors, si vous restez avec « Ah, mais je ne peux pas ne pas être », c'est su, c'est connu, c'est indubitable. Et cela qui sait qu'il ne peut pas ne pas être, on va l'appeler « je suis », l'être, l'étance, l'être-té, peu importe le mot. D'accord ? le regard à ce moment-là se retourne sur lui-même, on pourrait dire, ou se détend. Et se détend, on va dire. Je ne sais pas comment finir la phrase, sans trahir les choses.
Et est-ce que c'est vraiment une détente? Est-ce que finalement, peut-être que ce n'est pas une démangeaison depuis la conscience que tu as apparu finalement?
Oula, plusieurs concepts à la fois. C'est pas une démangeaison, l'être. L'être, c'est plutôt le repos que la démangeaison. Essayez de ne pas être. Si vous restez avec ça, ah mais je peux pas ne pas être, avec cela qui est perçu à ce moment précis, ça démange. Ou est-ce que c'est plutôt calme? Et quel rapport ça a avec la vie quotidienne, avec ce qu'on connaît de nous d'habitude? Est-ce que ça s'inquiète pour nous? Est-ce que ça cherche quelque chose? Est-ce que ça change d'état selon que le corps est en bonne ou en mauvaise santé? Selon qu'on vit des émotions agréables ou désagréables, disons? Selon qu'on est jeune ou vieux? Ou est-ce que c'est tout le temps là? Pareil, semblable. Pareil, si ça ne vous parle pas, essayez de ne pas être, alors réalisez que tout ce qui se passe, vous le constatez. Tout ce qui se passe peut être constaté. Ah tiens, ça bouge les mains. Ah tiens, les mains bougent, on pourrait dire tout simplement. Ah tiens, ça parle. Ah tiens, ça entend. Et ceux-là qui constatent, c'est comment ? Pas de qui. Vous partez de l'idée qu'il faut qu'il y ait quelqu'un quelque part. Et s'il n'y avait personne? Et si tout fonctionnait de soi-même? Ça chamboule. On a tendance à penser qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit aux commandes. Alors on dit, mais qui? Non. C'est la vraie question que posait Ramana Maharshi n'était pas qui suis-je, mais quoi moi? Quoi moi? Très différent. Et pour finir, je vous ai pas oublié tout à l'heure, vous avez l'être-té, le je suis, l'étance, l'être, comme vous voulez, donc, cela qui ne peut pas ne pas être. Mais cela qui ne peut pas ne pas être, cela qui constate, cela qui est conscient d'être conscient, est connu, qu'est-ce qui le connaît? Et là,
justement, ça s'arrête là, parce qu'on est dans les impossibilités.
Exact, vous ne pouvez pas aller plus loin.
Et ce que disait du dernier adage, c'est justement le royaume de l'être-té. Bah, le royaume ultime n'appartient pas au royaume de l'être-té.
Exact.
Et c'est ce paradoxe-là qui fait que la conscience, je veux dire, il y a une limite, on ne peut que s'établir dans l'être-té, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs.
Oui, mais c'est ce que disait en boucle Nisargadatta. Rester avec le sentiment je suis, et abandonner toutes les pensées sauf je suis.
Donc on peut juste prendre conscience de cette impossibilité, qu'on ne peut plus rien
faire. Exact, vous ne pouvez pas aller plus loin. Là, le plus loin que vous puissiez aller, c'est mais qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu? Là, le mental, il est soufflé. Vous êtes juste devant cette aperception, c'est-à-dire ce qu'on appelle une aperception. Ce n'est pas une perception, ça ne peut pas être perçu, sinon ce serait connu. D'accord? C'est une aperception, c'est-à-dire qu'on en a le goût, le parfum, on le sait, c'est indubitable, insaisissable, inconnaissable. Et c'est, on ne peut pas en douter.
Donc on n'est que dans la bande-annonce. L'être-té, c'est la bande-annonce de l'absolu.
Ouais, on pourrait le dire comme ça, je ne connaissais pas ça. Mais... C'est que, mais, sauf que, dès l'instant où l'identification à la pensée moi s'effondre, tomber entre guillemets naturellement dans le je suis, et ça c'est ce que j'appelle le premier réveil, et celui qui est facile entre guillemets de réaliser. Et pour moi le second éveil, le vrai, c'est effectivement c'est on est soufflé quoi, enfin, tout le reste, tout ça c'est fait, même je suis est connu, qu'est-ce qui le connaît? Et on ne peut pas aller plus loin que là, que on ne peut pas le céder, on ne peut pas le céder. Et un jour, on est absorbé ou pas. Mais c'est déjà plus d'importance.
Oui, on va faire la question centrale.
C'est c'est, ouais.
Enfin, en tout cas, ça peut être le désir.
Mais pas comme une question. Hein. C'est vraiment c'est être avec dans le cœur. C'est pas une question. C'est pas mental.
Cette question, elle peut prendre la forme d'une question au départ, que ça va amener.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà.
Alors, pendant le temps, la pensée est impersonnelle, elle arrive à disparaître, j'ai beaucoup de mal avec ça. Bien sûr, il y a des pensées, il y a plus de pensées, des choses, pensées un peu chaotiques, je suis d'accord. Mais quand je pense, alors c'est mixé avec de l'émotion, mais quand je pense, je lui en veux, bien, j'ai peur que ça, j'ai l'impression que ça sort de mes tripes, de mon histoire, d'accord, de mes conditionnements, mais c'est ce que j'appellerais quand même, c'est pas une pensée impersonnelle. J'ai toujours du mal avec ça.
Quand vous dites je lui en veux, c'est un petit peu compliqué. Je veux, je lui en veux, il faudrait le traduire autrement parce que c'est. Je suis en colère contre lui, par exemple. Ce serait plus facile si on prend quelque chose comme ça. Il y a toujours deux pensées juxtaposées, la pensée je et la pensée colère. C'est-à-dire qu'il y a colère contre quelqu'un, il y a appropriation. Je suis en colère contre lui.
C'est corporel.
Oui, bien sûr que c'est corporel. Mais bien sûr que c'est corporel. Bien sûr que c'est corporel.
Moi, je m'identifie à des choses corporelles, beaucoup, très souvent.
Exact, comme beaucoup de gens. C'est tout à fait normal.
Moi aussi.
Mais oui, mais.
Mais la main, ce qui se
mais.
Mais. Pour les dénoncer.
Mais sinon, vous ne seriez pas là.
Mais donc, c'est quand même personnel.
Ah. Oui. C'est bien. On peut dire que oui, c'est bien à cet organisme-là que ça arrive. Ça ne veut pas dire que ça arrive à un individu séparé qui choisit d'en vouloir à l'autre et qui est en colère contre qui est réel. Moi, je suis en colère contre toi. Ça ne veut pas dire qu'il y a un moi et un toi, individus séparés, qui ont choisi de se mettre en colère l'un contre l'autre ou de se faire une méchanceté.
Mais personne ne dit ça.
Mais c'est ça que je dis. Je définis spécifiquement le moi comme l'idée d'un individu séparé qui pense par lui-même, qui pose des choix par lui-même et qui pose des actes par lui-même. Pardon ?
Qui serait l'auteur ?
Qui serait l'auteur, oui. Oui. Évidemment, la personnalité demeure. Évidemment, les conditionnements demeurent. Et évidemment que lorsque la pensée « moi » s'effondre, l'idée d'un « moi » s'effondre, lorsque la croyance dans un « moi » s'effondre, les autres croyances ne s'effondrent pas toutes d'un coup. Ce que j'appellerais l'ego ne va pas s'effondrer d'un coup, et ça ne s'effondrera peut-être jamais, parce qu'il y a besoin que le regard se porte dessus, sur ses autres croyances, pour qu'elles soient vues comme fausses, et donc qu'elles s'effondrent. Et si le regard ne se porte pas dessus, elles vont continuer.
Donc dire les pensées qui arrivent sont des pensées impersonnelles, ce qu'on entend souvent, c'est quand même un peu une facilité de langage.
Mais ne vous accrochez pas au mot. Parce que les mots vont toujours trahir la chose, tout le temps, tout le temps. Les mots sont juste là pour indiquer une direction, pour montrer quelque chose. D'accord ? Si un personnel vous gêne, mettez un autre mot qui vous convient mieux. Ça n'a pas d'importance en soi. L'important, c'est que vous compreniez que vous êtes l'auteur, vous n'êtes pas l'auteur. Est-ce que c'est vous qui pensez ou est-ce que les pensées apparaissent ? Est-ce que les choix se font ou est-ce qu'il y a un moi qui pose des choix, qui fait des choix ? Et est-ce que vous choisissez de dire tout ce que vous dites et de hocher la tête quand vous l'hochez, ou est-ce que ça se fait de soi-même ? Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est mais qu'est-ce qui me fait croire qu'il y a un moi ? Qu'est-ce qui me fait croire qu'il y a un moi ? Que c'est à moi que c'est telle et telle chose arrive ? Que c'est moi qui ai fait telle et telle chose ? Ou qui n'ai pas fait telle et telle chose ? Qu'est-ce qui me fait croire qu'il y a moi ?
Et qu'est-ce qui fait croire qu'il n'y a pas de moi ?
Qu'est-ce qui fait croire qu'il n'y a pas de Père Noël ?
Ah, moi, je crois au Père Noël.
Attends, pas arrivé.
Non, mais c'est une question, parce que là, on est en chemin.
Non, et la question n'est pas celle de la croyance, mais de la réalisation. Il ne s'agit pas de croire qu'il n'y a pas de moi, surtout n'allez pas dans ce sens-là.
Oui, mais c'est difficile d'aller vers quelque chose où on n'est pas sûr que ça existe.
N'allez surtout pas vers quelque chose, regardez. Jamais vous ne m'entendrez dire « croyez ce que je vous dis », au contraire, ne croyez pas ce que je vous dis. Laissez la porte ouverte au fait que ce soit possible et regardez par vous-même. C'est pour ça aussi que je ne vais pas parler pendant une heure et demie tout seul et je vous pose des questions et je vous demande de m'interroger.
Parce que ce qui m'a... cru, moi j'entends bien, enfin, je suis capable de me dégager de certaines histoires, histoires crues.
Oui.
Mais c'est difficile de se dégager de l'histoire de... que je crois que je suis un moi, alors que je... pour moi je suis un moi.
Mais oui, mais quand vous étiez enfant, vous croyiez au Père Noël. Et en plus, vous y croyez toujours. Peut-être même vous avez cru au prince charmant.
Oui.
Est-ce que vous y croyez encore?
Oui.
Je ne peux rien faire pour vous.
Et ça a l'air de lui aller bien, non?
Oui, mais tant mieux, mais justement, donc je ne peux rien faire pour elle, elle va très bien.
Non. Mais c'est, je rigole pas en posant cette question.
Non, mais je sais bien.
Je pense que c'est... Enfin, je veux dire, c'est compliqué d'être en recherche sans trouver... Et de se dire, est-ce que je continue ma recherche, quoi.
Ok, arrêtez de chercher là maintenant tout de suite. Vous pouvez prendre la recherche en sortant. Mmh. Arrêtez de chercher là maintenant tout de suite. Déposez la recherche. C'est comment?
C'est là.
Qu'est-ce qui est là?
Ben moi.
Ouais. C'est comment? C'est comment d'être là?
C'est comment? Il fait chaud. Il y a des émotions parce que tout le monde me regarde. Voilà, et puis il y a un gros point d'interrogation qui se présente. Voilà.
Déposez tout ça. Mmh. Déposez l'existentiel. Déposez le point d'interrogation. Déposez l'émotion. Déposez le chaud dans le corps. Déposer, ça veut dire mettre de côté, laisser être sans rien en faire, négliger le... Je sais pas, peu importe le mot, changez le mot si vous convient pas. Ne pas s'en préoccuper. Qu'est-ce qui demeure?
C'est d'être là.
Là.
Ici. Présent.
Et c'est comment?
C'est toujours inconfortable parce que tout a pris été déposé.
Et en même temps, forcément, quelque part, ça sent ce qui est en amont de tout ce qui arrive, de tout
oui,
ce qui se passe.
Oui, cette perception, je l'ai, parfois.
Oui, donc, là, tout de suite.
C'est sur ce support, en fait, que je me base pour me dire que ça doit exister.
Mais ce support, est-ce qu'il va et vient ou est-ce qu'il est tout le temps là?
Pour moi, mais le tout le temps, non, parce que je suis emportée tout
vous
le temps.
Vous n'en êtes pas toujours consciente, mais est-ce qu'il disparaît ou est-ce qu'il est là et que vous n'en avez pas conscience?
Oui, peut-être qu'il n'est pas perçu. Parce que l'agitation...
Et ce support, est-ce qu'il a l'idée d'un moi, individu séparé, à qui il manque quelque chose?
Calme, non.
Le support, parfois, il n'est pas calme?
C'est difficile parce que bon, je le connecte que quand je suis calme, quoi. Quand je suis dans la vie, je ne le connecte pas. C'est compliqué de... Je ne sais pas si vous voyez ce
que je... Si, si.
Donc, comme je le connecte que dans des moments de calme, il peut que être calme.
Comment vous sentez là tout de suite? C'est constaté. Vous en êtes consciente. Qu'est-ce qui est conscient du fait de votre état là maintenant? Les autres peuvent poser la question. Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Et cela qui le constate, cela qui est conscient de comment vous sentez là maintenant, c'est comment?
Moi, ce que je peux constater... Parfois, je me perçois derrière les pensées et derrière les émotions.
Oui.
mais je ne suis pas capable de dire si c'est calme ou pas calme. Je sens simplement que ma pensée et mon émotion est devant et que moi, je suis derrière.
Mais c'est moi qui est derrière. Il est fait de quoi? C'est quoi? Je ne sais pas. Et ce moi qui est derrière, est-ce qu'il est tout le temps là ou est-ce qu'il va et vient, que j'en ai conscience ou non?
Pas tout le temps, parce que... Mais parfois, oui, souvent. Je fais en sorte que ce soit de plus en plus souvent.
Et maintenant, vous constatez tout ce que vous dites, vous constatez l'état dans lequel vous êtes physiquement, émotionnellement, et ceux-là qui le constatent. Vous pouvez le constater, vous pouvez le toucher,
oui,
ça.
Oui.
C'est dans quel état? C'est calme ou agité, par exemple?
C'est pas agité, mais je ne suis pas sûre que ce soit calme. Je m'en rends compte pas.
Non, je n'ai pas en avant-plan, restez en arrière-plan, vraiment. Restez avec ceux-là qui constatent, avec cette conscience d'être conscient, on va dire. Regardez cette conscience d'être conscient, le fait d'être conscient, d'être consciente. Regardez ceux-là qui constatent. Changez le mot si vous ne convient pas, mettez écoute, mettez constater, mettez un autre mot, peu importe. Oui, écoute. Et c'est une écoute comment? Elle juge cette écoute?
Bienveillante.
Bienveillante. Mmh. Une écoute bienveillante, attentive, ouverte, sans jugement.
Ça justifie pas le fait que je puisse, comme vous disiez, là, les arbres qui poussent, c'est pas mieux. Moi, quand je fais des choix, moi, c'est moi qui fais des choix, c'est pas, comment dire, une pulsion de vie, une énergie vitale qui bouge à ma place, quoi. Parce que c'est un peu ce que vous...
Et ceux-là qui constatent, ceux-là qui consentent d'être conscients, est-ce que ça fait des choix? Non. Et du point de vue de ceux-là qui constatent, où est-ce que se font les choix, si les choix se font?
Eh bien, sur l'avant-plan.
Regarde. Puisque l'avant-plan fait des choix depuis ceux-là qui constatent. Par exemple, est-ce que là tout de suite tu as dit, là tout de suite tu as dit, eh bien l'avant-plan, et tu as fait ce geste?
Oui, c'est ça.
Est-ce que l'avant-plan a décidé de dire, eh bien l'avant-plan, et est-ce que l'avant-plan a décidé de faire ce geste? Où est-ce que ça s'est fait?
Moi, je crois que les gestes que je fais sont aussi une partie de ma construction.
Ça, c'est ce que tu crois.
C'est mon histoire, quoi.
Oui, c'est l'histoire de cet organisme, c'est une construction, c'est des conditionnements, c'est, oui, c'est pourquoi, c'est l'expression de ce corps, peu importe. Est-ce qu'il y a un choix dans tes conditionnements? Est-ce que tu as choisi d'être conditionné de telle et telle manière?
Son histoire, on a pris des cours de danse par exemple, on aime le beau geste, on fait des choix de posture, on fait des choix.
Oui, d'accord, prenons cela. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait de la danse? Est-ce que tu as choisi de faire de la danse?
Oui, je pense que. Enfin, choisi, j'ai désiré.
Tu as désiré. Est-ce que tu as choisi de désirer faire de la danse?
Non.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si tu remontes la chaîne, tu t'aperçois que, ah ben non, je n'ai pas choisi. Il y a un désir qui est apparu. Tu as fait de la danse, ça t'a plu. Et tu n'as rien fait pour que ça te plaise. Ça t'a plu. Tu n'as pas choisi que ça te plaise. Et tu as fait de la danse. Et l'amour du beau geste, tu as choisi d'avoir l'amour du beau geste?
Non.
Non. Il est où le choix?
Ah ouais, mais ça, ça
m'a dit. Ah, voilà. Et là, on tombe, tu vois, on tombe sur les pensées. Plusieurs fois, tu as dit, je crois que, tu vois. Et là, tu dis, mais ça, j'aime pas cette idée-là. C'est-à-dire, tu veux pas même regarder de près, mais est-ce que je choisis ou pas? Je veux penser que je choisis. Je veux croire que je choisis. Et ça, c'est un frein.
Oui, mais ça laisse la place au laxisme à ce moment-là, en disant,
voilà, ça c'est la sempiternelle chose
choisir,
que j'entends dire.
Voilà. Non, mais, enfin,
mais de fait, si tu regardes, tu n'as jamais fait de choix.
Ben oui.
Pourquoi laisser encombrer de penser que je choisis et qu'il faut que je choisisse, puisque de toute façon, tu n'as jamais pu faire de choix. Les choix se font.
C'est le laxisme, le choisir.
Mais non, mais de toute façon, y a la question du laxisme, pour moi, n'a pas de sens. Imaginez qu'un enfant traverse la rue, qu'une voiture arrive. Combien il y en a parmi vous qui ne vont pas l'arrêter sans une demi-seconde de réflexion? Ça va se faire, c'est automatique. La vie prend soin d'elle-même, j'ai envie de dire. C'est automatique. Il faut un sacré conditionnement pour ne pas l'arrêter, le gamin. Oh, c'est pas le mien, je m'en occupe pas. Mais c'est-à-dire, c'est pas du laxisme, c'est la folie du mental. Mais penser qu'on va être laxiste si on abandonne l'idée qu'on fait un choix, c'est de penser. Est-ce que c'est vrai?
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut simplement laisser faire. Ça n'empêche pas de poser des actes.
Non.
Bien d'accord.
Je dirais même pas ça, c'est encore trop. Je dirais que tout arrive de soi-même. Ce qui est arrivé de soi-même. Voilà. On a vu pire. Tout arrive de soi-même. Tout est toujours arrivé de soi-même. Ne me croyez pas sur parole. Ah oui. Oui. Exact. 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 Oui. Bah oui. J'ai pas choisi de dire ce que je vous dis. J'ai pas choisi de faire les gestes que je fais. J'ai même pas choisi de venir.
La stabilisation dans la conscience, ça arrive aussi de soi-même.
La quoi?
La stabilisation dans la conscience. Faites l'être, justement.
C'est ce que vous êtes, que vous en ayez conscience ou non. Donc, stabilisation est une version erronée de la chose. Mais oui, ça arrive de soi-même.
Et transcender la conscience, ça arrive de soi-même, éventuellement.
Tout dépend ce que vous mettez sous ces mots, mais bien sûr, oui. Tout arrive de soi-même. Au sein de ce rêve qu'on appelle la vie, au sein de cette illusion. Parce que ça, vous savez bien, si jamais vous remontez à cela qui connaît tout ce qui peut être connu et qui est inconnaissable, évidemment, pour ce qui est, tout est une apparition. Le déterminisme, vous disiez. Je suis la liberté même. Vous êtes la liberté même. Ce que nous sommes est la liberté même. Et ce film est déjà dans la bobine. C'est un rêve. Vu d'ici, c'est un rêve. C'est une illusion. C'est un film qui se déroule apparemment. Mais ne me croyez pas sur parole, c'est pas important. Ça c'est, de toute façon, ça c'est seulement quand on parle de cela qui connaît tout ce qui peut être connu et qui lui-même n'est pas connu. C'est ça, c'est quelque chose auquel on a accès que de ce point de vue-là. c'est trop loin, c'est trop d'un coup. Cependant, si vous lisez Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, des gens comme ça, ils vous le disent tout le temps en boucle, c'est un rêve, c'est une illusion. Ramana disait par exemple, mais si vous ne désirez pas travailler et qu'il est écrit vous travaillerez, eh bien vous travaillerez. Et si vous désirez travailler et que vous cherchez du travail mais qu'il est écrit vous ne trouverez pas de travail, vous ne trouverez pas de travail. Quelle action avez-vous sur vos rêves la nuit lorsque vous dormez? Quand vous dormez la nuit et que vous rêvez, vous croyez réellement à ce qui se passe dans le rêve? Et au matin, au réveil, vous dites simplement « Ah ben, c'était un rêve. » Et vous n'y croyez plus, ça s'arrête. Le monde du rêve apparaît d'un coup, avec le commencement du rêve, et il s'effondre d'un coup avec la fin du rêve. La vie, c'est pareil. Les pensées, mais pas seulement, ce monde, les perceptions, les sensations, les émotions, tout, tout. Cet univers est un rêve. Je suis en train de me rêver. Ce qui est en train de se rêver en tant que l'univers et tout ce qui s'y déroule. Vu d'ici, ne croyez pas sur parole, surtout pas. C'est-à-dire que le monde du rêve, on pourrait dire, ce monde apparaît d'un coup le matin au réveil et il s'effondre d'un coup le soir au moment où on s'endort. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que vous soyez endormi ou réveillé dans cette existence-ci, l'ensemble de l'existence est un rêve. Un seul rêve.
Mais c'est quand même bien qu'il se passe quelque chose.
Mais qui a dit que ce n'était pas bien? Sûrement pas moi. C'est merveilleux tel que ça apparaît. Non, c'est pas la peine.
Mais bien là.
Mais bien sûr, mais why not? Bien sûr.
Nous, on ne sait pas, ça fait partie du jeu.
Oui, sauf que qui parle? C'est pas moi qui parle, c'est ce qui est qui s'exprime ici et là. C'est là où ça devient amusant, vraiment. Que j'ai dit que j'étais pas le corps.
Vous avez dit qu'on s'identifiait.
Oui.
Vous avez dit ça. Pourquoi est-ce qu'il y aurait d'un côté,
Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit.
Mais c'est ce que vous dites.
Non.
Ce rêve, c'est peut-être la chose la plus merveilleuse qui puisse nous arriver.
Mais. Qui arrive, c'est la merveille qui arrive, mais pas qui nous arrive. Parce que dans ce qui nous arrive, vous entendez à moi, enfin à nous les uns les autres, individus séparés.
Mais si on était tous collés, ce serait embêtant. On
pourrait même mais évidemment, mais c'est pas de ça dont on parle. D'abord, j'ai rien contre l'identification et je mets sûrement pas à la trappe, le corps elle reste. Si vous êtes ici, a priori, c'est parce qu'il y a une recherche. A priori, c'est parce qu'il y a un mal-être. Et ce que j'essaye de dire, c'est que ce mal-être est lié à des pensées crues, en particulier la croyance en un moi individu séparé, qui s'approprie des choses, dont le corps. C'est pour ça qu'on parle d'identification. Mais c'est dans l'autre sens, je ne suis pas le corps, je suis cela au sein duquel tout arrive, et dont une fraction infime, pour mettre des mots dessus, parce que ça trahit la chose, vient se coller à un corps et croit qu'il est le corps, fait l'expérience de croire qu'il est le corps. Mais il n'y a aucun jugement dans tout ça. Fait l'expérience de croire en un moi, il n'y a pas de jugement. Il fait donc l'expérience de la souffrance. Merci. Voyez-le vraiment depuis l'autre côté autant que vous pouvez.
Il n'est pas le corps, mais il a un corps, cet individu. Donc, il a un corps.
À quel individu?
On est des individus.
Vous croyez que vous êtes...
Non, je ne crois pas. Non, je suis d'accord. Je ne suis pas le corps, mais j'ai le... Enfin,
oui.
Ah, il y a un corps. Mais
qui a... Qu'est-ce que c'est qui a un corps?
L'individu. Enfin,
ce que vous appelez l'individu. Il est fait de quoi, c'est... Il est quoi?
Comme disait Ramesh Valseca, organisme corps esprit.
Non, l'organisme, l'organisme corps mental.
Oui, corps mental, oui.
L'organisme corps mental n'est pas ce que je suis.
Non, mais il se passe
l'organisme
des choses.
Apparaît
en ce que je suis. On est un contenant quand même, on est un contenant.
On est un contenant de quoi?
Cette conscience qui passe à travers ce contenant. Cette conscience universelle.
Donc nous sommes le contenant de la conscience.
Il y a la conscience et chaque compris.
Nous sommes le contenant de la conscience. Je prends. Disons que nous sommes le contenant de la conscience. Il y a de la conscience là, il y a de la conscience là, il y a de la conscience là, il y a de la conscience là. Vous êtes le contenant de la conscience là, de la conscience là, de la conscience là et de la conscience là. Voilà ce que vous voulez dire. Et c'est exactement ce que je dis. Est-ce que vous voyez comment cet organisme spécifique est relativisé au sein de cette conscience qui inclut toute la conscience et tous les corps-organismes? Comment on passe de « je suis ce corps » à « tout est contenu en ce que je suis ». Merveilleux, non? Il y a un shift qui se passe. Hein? On arrête de croire qu'on est juste là, collé. Regardez les rêves, il n'y a pas de support. Dans les rêves, vous rencontrez 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, il n'y en a pas. Oui, je veux dire, il n'y a pas, si vous rencontrez 20 personnes dans le rêve, il n'y a pas 20 personnes. En réalité, il n'y a que vous, en train de rêver, en plus. Le support, il est dans la conscience. Le support, il est la conscience. Plutôt, la conscience est le support. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'identification à cet organisme spécifique pour ressentir et vivre tout ce qui peut être ressenti et vécu, si c'était votre question. C'est-à-dire qu'ici, peut très bien être ressenti la colère, la tristesse, la joie, tout le reste. Hein. Tout le reste. Il y a des choses qui tombent. Ouais. Tout ce qui est fondé sur une franche dualité... l'envie, la jalousie, par exemple. Je ne saurais pas trop dire, mais tout ce qui va être en termes de prise, de... Je veux ça pour moi. Le désir, c'est tout. En tant que recherche de quelque chose qui n'est pas là. Il n'y a pas d'envie de quelque chose qui n'est pas là. Ça ne peut pas apparaître, parce qu'il n'y a rien qui manque. Donc il y a des choses qui s'effondrent. C'est un peu plus cool, plus calme. Mais si je vois quelqu'un de triste, je peux être très sensible à sa tristesse, ou je peux dire des trucs. Tout à l'heure, je parlais encore de la mort de mon père qui a eu lieu en 93, après, ça fait longtemps, mais j'avais les larmes aux yeux, mais bon, ça s'était passé. Enfin, j'en parle trop, sinon ça va revenir. Je suis très touché, beaucoup plus facilement touché par beaucoup de choses qu'avant. Beaucoup plus de choses. Mais c'est doux. La tristesse, c'est doux. La colère, c'est fort. La peur, c'est marrant. C'est ça la différence. C'est pas refusé, donc c'est complètement pleinement vécu à l'intérieur. Mais ça dure pas parce que c'est pleinement vécu, donc ça accroche pas. La plupart du temps.
Oh
oui.
Ça
oui.
Ah
oui.
Ah
non, mais c'est une vraie surprise d'ailleurs. Mais c'est qu'il y a encore des pensées crues quelque part, il y a encore des conditionnements qui tiennent, et encore probablement, peut-être pas, mais parce qu'il y a aussi des seins de colère. Je ne dirais pas, j'en suis là, j'en sais rien. Je ne dirais pas qu'il n'y a jamais de seins de colère, mais il y a aussi des colères complètement égotiques, c'est-à-dire qu'il y a encore des conditionnements, il y a encore des pensées crues. Il y a encore le regard qui ne s'est pas posé sur toutes les croyances. Ça va durer, je ne sais pas combien de temps. Évidemment. Il y a des émotions pures aussi, être ému de compassion, comme on dit. Ça, pour moi, c'est pur, il n'y a pas de pensée là-dedans. Il y a aussi une sainte colère, entre guillemets, où il n'y a pas de pensée, où il y a simplement la justesse qui devient paf. Et ça, c'est. À mon avis, ça va continuer, ce genre de choses. Ouais, ben peut-être qu'il n'avait pas regardé tout non plus, je ne sais pas. Mais non, peut-être aussi qu'il y avait une sainte colère.
Oui, je pense, c'est ça.
Mais en tout cas, il peut y avoir les deux. Donc voilà. C'est ce que disait Ramana Maharshi quand il disait « Lorsqu'on coupe le moteur d'un bateau, il continue sur son air un certain temps. Il ne s'arrête pas tout de suite. » Et là, c'est pareil. Lorsque la croyance en l'idée d'un moi s'effondre, le moteur est coupé. Mais tous les autres conditionnements, toutes les autres pensées crues, ça continue. Tant que le regard ne se porte pas dessus et ne voit pas que c'est fallacieux, que c'est faux, que c'est des pensées fausses, ça continue.
La croyance du mouvement est réellement effondrée. Qu'est-ce qu'il y a pour croire ?
C'est un conditionnement.
Mais pour qui le croit, c'est que ça n'a
personne. Il n'y a jamais eu personne.
D'accord, mais qui le croit ?
Non, mais pas qui ? Il n'y a pas de qui. C'est cru.
Non, c'était juste pour reprendre ce que vous avez dit juste avant.
Oui. Mais c'est ma réponse. C'est un conditionnement.
Qui est cru par qui ?
Mais qui n'est pas cru par quelqu'un.
Donc à ce moment-là, il n'y a pas de.
Qui se produit. Le conditionnement se produit. Mais oui, comme chez un animal, à la limite, est-ce qu'un animal a besoin d'un moi pour être conditionné, assis et s'asseoir ? On lui dit assis, et puis on l'appuie sur les fesses, et on lui donne une récompense quand il s'assoit. Il comprend, assis égale récompense. On lui dit assis, je m'assois, j'ai une récompense. C'est un conditionnement, il n'y a pas besoin d'un moi. Il n'y a pas besoin d'un moi pour ça. Vous croyez qu'il y a besoin d'un quelqu'un ?
Le conditionnement va arriver sans moi, mais à ce moment-là, il reste une trace.
Le conditionnement arrive toujours sans moi parce qu'il n'y a pas de moi. Et il peut laisser des traces ou pas, et de toute façon, ça n'a aucune importance, oui.
Si le conditionnement arrive avec un moi, il laisse des traces.
Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de moi.
Si
la croyance, s'il y a une croyance en un moi, un conditionnement laisse des traces. Mais qui est croyance en un moi ou pas, un conditionnement laisse des traces. La croyance en un moi est déjà un conditionnement. Personne. Personne qui croit ou qui ne croit pas, ça arrive.
Mais ce concept arrive, mais le mental, le témoin, je
ne
sais pas.
Ça apparaît, je ne sais rien, moi. Pourquoi il y a des roses et des tulipes? Ça n'a pas d'importance. Ce qui est constaté, c'est que ça apparaît. Le moi est un conditionnement. La croyance en un moi est un conditionnement, comme les autres.
C'est pas assez.
Oui, oui.
Je voulais juste te dire, si, comme conditionnement, la croyance du moi c'est fou, si un conditionnement apparaît, pourquoi l'action, il ne laisse pas de traces. C'est juste par rapport à
ce que j'ai dit. Ah oui, exact, exact, oui, c'est-à-dire que lorsque ça se met en colère,
il n'y a pas de trace, c'est pour ça que c'est.
Il n'y a aucune trace. Ah oui, 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 tout à fait.
Et donc si le moi est complètement effondré, il n'y a même plus de regard à avoir parce qu'il n'y a pas de trace.
Non, ça ne laisse pas de trace, ça ne veut pas dire qu'il y a pas, que le regard ne se porte pas dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un regard à poser dessus parce que ce serait beaucoup trop d'effort. Ça ne veut pas dire que le regard ne se pose pas dessus. À un moment donné, ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a interpellation. Tiens, ça s'est mis en colère, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est surpris. Alors le regard se porte. Ah, il y a telle pensée qui est apparue que je n'avais même pas vue. Ah, c'est drôle, ouf, ça c'est bon, terminé, c'est fait, il arrive à voir. Oui, et pareil pour tout le reste. Mais parfois, ça n'interpelle pas. Donc, ça, le conditionnement peut continuer à se jouer. Ça répond à la question comme ça. D'accord. Vous avez commencé les choses.
Oui, en fait, je
rebondis
sur ce que vous avez dit, ce que je comprends très bien. C'est, vous dites, donc la colère arrive parce que le regard n'est pas porté sur le monde. Et dans votre cas, qu'est-ce qui empêche que le regard soit porté?
Bon, rien. Et ici, il est tourné vers autre chose, il est tourné vers autre chose. C'est pas mal ou bien, c'est tranquille. Quand ça se met en colère ici, ça rigole. Ça oublie. Même si ça n'a pas vu la pensée, ça oublie. Ça n'a pas fait brancher la porte que c'est déjà oublié. Puis ça envoie la personne 10 minutes après, ça lui fait un bisou et un câlin, parce que de toute façon, ça ne se souvient même pas que ça avait été en colère. Ça ne laisse pas de traces.
Oui.
Et pareil pour le reste.
Oui. Mais comment se fait-il qu'il y ait une pensée qui apparaisse et qui n'est pas vue?
Parce que moi, parce que c'est tellement conditionné, ça va tellement vite. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'au départ, on apprend à conduire. Alors on est très attentif à ce qu'on fait, comment on le fait, etc. D'accord? Et puis au bout d'un moment, on sait conduire, on n'y fait plus attention. Et ça conduit tout seul. C'est pareil. C'est un conditionnement, c'est des automatismes qui se mettent en place. Et puis parfois, on doit aller à un endroit, mais d'habitude on passe toujours par là pour aller ailleurs. Ah zut, on a raté le chemin, on a bêtement suivi le chemin qu'on suit d'habitude, et puis c'est pas du tout cela qu'on devait prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'attention portée sur là où je vais. On était ailleurs. On n'a pas pensé, on s'est trompé de route. Ça vous arrive, ça? Ben, c'est pareil. C'est-à-dire, le regard, il va se porter ou pas. Le conditionnement, il est là, il tourne tout seul, lui. Tant que le regard ne se pose pas dessus, il va continuer. Mais le regard, il va se poser dessus un jour par inadvertance, ou parce qu'il y a quelque chose qui étonne, qui apparaît, ou parce que quelqu'un dit, mais t'as vu là ce que tu as dit ou ce que tu as fait? Ah bon? Ah oui, ah tiens, oui. Tu vois? C'est pas... La recherche s'arrête. Donc comme la recherche s'arrête, tout est bienvenu. En fait, tout est bienvenu. C'est ça la différence aussi.
Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de place sur les autres.
Pardon?
Ça veut dire aussi hein, s'il n'y a plus de... On accepte tous les autres sans souci.
Pas forcément
tout
dans la
seconde.
Pas forcément tout de suite dans la seconde, parfois ça accroche parce que ça vient frapper une croyance, ça vient frapper un conditionnement. Ah oui! Bien sûr. Plus facilement qu'avant. Je suis étonné parfois des réactions que j'ai jamais eues avant. Tout d'un coup, il y a un truc qui sort. Ah ouais, tiens. Ah d'accord. Mais avant, ça se faisait pas, ouais. Qu'est-ce qu'il va penser? Ouh là là, mais tout simplement, ça ne me venait pas à l'esprit. Mais là, ça ne me vient pas à l'esprit, ça sort.
Est-ce que cette disparition des conditionnements pour vous, ça s'est fait d'un coup? Ça a été graduel?
Non. C'est pas d'un coup, c'est un après-coup, c'est petit à petit, et c'est pas fini.
Après-coup de quoi?
Après avoir réalisé qu'il n'y a pas de moi, que le moi est juste une pensée.
En l'ayant vu, par méditation.
Réaliser. Il y a comprendre, voir, réaliser.
Est-ce que ça a été associé à des conditions spatio-temporelles particulières?
Ah, je ne saurais pas dire exactement, parce qu'en fait, chez moi, ça s'est fait en plusieurs temps. C'est-à-dire que ça a été vu qu'il n'y en avait pas de moi. L'individu séparé. Je ne saurais même pas quand. Mais il y a des années et des années. Mais pour moi, l'éveil, c'était signé par telle et telle et telle et telle chose. Ayant vécu des expériences mystiques, je pensais qu'une fois éveillé, ce serait au moins aussi intense que l'expérience mystique la plus forte que j'avais vécue. En résumé. Et que bien sûr, il n'y aurait plus jamais de colère, de tristesse, de peur, de etc. quoi. Le nirvana, H24. D'accord ? C'était ma croyance. Donc j'avais bel et bien vu qu'il n'y avait pas de moi, mais pas réalisé. Parce que, puisqu'il n'y avait pas ce que j'attendais, c'est que je n'avais pas réalisé. C'était juste une croyance. Et un jour, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu crois qu'elle éveille ? Bah, on en a une idée quand même de ce qu'elle éveille. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'en sais ? Là, la sœur m'a coulé sur le front, mince, j'en sais rien. C'est ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai cru lire. C'est même pas dans les livres, mais c'est ce qu'on a cru lire. Beaucoup parlent de l'expérience qui se passe au moment de l'éveil. Et nous, on croit que c'est ça qu'ils vivent tout le temps. Non, non, c'est juste qu'ils ont vécu au moment où ça a basculé. Et à ce moment-là, boum, ça s'est effondré. Et la réalisation qu'il n'y a pas de moi s'est produite. C'est-à-dire que depuis ce moment-là, c'est une évidence, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Et ce qui m'est revenu le plus souvent, passé l'instant de gratitude à ce moment-là, ce qui m'est venu, c'est « Mais comment j'ai fait pour voir plus tôt ?» Ça tire une balle de simplicité, c'est une évidence.
Ça, c'est la rencontre avec le gourou.
Avec le gourou. Ouais, c'est mais c'est quoi gourou. C'est pas, même pas un gourou, c'est des gens, je veux dire, c'est vous et moi, quoi. Hein, c'est pas « Enlevez-vous de la tête, il faut un gourou !»
Donc c'était une personne dans la rue, vous avez
dit, non, c'est quelqu'un qui avait déjà réalisé. Oui, mais, ouais. Mais enlevez-vous de la tête que ceux qui ont réalisé qu'il n'y a pas de moi sont tellement différents de vous. C'est pas vrai. La seule différence, c'est qu'il y a une croyance qui s'est effondrée. La croyance en l'idée d'un moi. Point barre.
C'est juste ça.
Oui. Oui.
Et du coup, vous osez comme ça entrer devant nous avec une grande aisance.
Oui.
Ça, c'est super.
Oui.
Je vous envie. Hein.
Merci. Mais oui, mais parce que... Mais ça se fait naturellement. Non, mais... Bon, j'ai quand même pas mal enseigné dans ma vie auparavant, donc ça aide, hein. Mais, et puis c'est à sa vie en moi, l'enseignement. Donc, voilà, enfin l'enseignement, le partage, des choses comme ça. Mais oui, et puis mais dans ceux qui ont réalisé, j'en connais beaucoup plus qui ne parlent jamais de ça qu'il y en a qui en parlent. Je dirais au moins, allez, 30 pour 1, 40 pour 1, je sais pas, enfin, c'est énorme. Enlevez-vous de la tête que c'est rare.
Mais quand il n'y a pas non. De moi, en fait, ça veut dire qu'on lâche l'affaire, en fait. C'est une lâche
l'affaire. Quelle affaire ?
C'est moi qui fais ça, etc.
Ben évidemment, c'est pas moi. Il n'y a pas de moi.
Quand vous dites que les choses se produisent, c'est quelque chose qui fait que ça se produit.
Oui, ça se produit de voilà. Soi-même.
Alors moi, ce que je voudrais venir, c'est à la confiance.
Oui.
C'est-à-dire que, comme vous avez lâché le truc, les peurs tombent.
Pas toutes d'un coup, mais oui, beaucoup de peurs sont tombées. Et puis parfois, il y en a une qui apparaît, mais ça dit « Ah tiens, c'est marrant, ça a peur. »
Ouais, voilà.
Puis ça s'est vu, et puis c'est regardé, ça s'est fondu.
Moi, je commence à sentir ça, mais enfin, des fois, je me colle aussi, quand même. Mais bon, je commence à sentir, à pouvoir regarder ma peur à distance et la laisser rester petite.
Ah, mais moi, je la regarde pas à distance, je la regarde complètement, là, en la vivant complètement.
Comment ça ? Il va doucement, hein. Mais moi, le problème, c'est la confiance. C'est-à-dire confiance dans cette énergie qu'elle sera bonne pour moi. Parce que moi, je veux qu'elle soit bonne pour moi.
Pour moi ? Quel
voilà.
Moi ?
Ah, ben voilà.
Il y a l'idée d'un moi.
Voilà. D'accord.
Vous êtes la confiance même. Vous êtes la liberté même. Vous êtes le bonheur même. Vous êtes la joie même. Vous êtes la confiance même. Tout ce que vous cherchez, vous l'êtes. C'est simple. Vous dites j'aimerais bien ça, vous l'êtes. Si vous regardez l'organisme corps mental, évidemment non. Et à juste raison. Comment cet organisme pourrait-il avoir confiance dans n'importe qui et n'importe quoi ? Ça n'aurait juste pas de sens.
Non mais moi c'est l'idée d'une confiance en une puissance supérieure. Enfin,
mais vous êtes cette puissance. Vous êtes cela qui est à partir duquel tout apparaît. Par l'autre. du point de vue de cela qui contient la conscience. Vous imaginez mourir ? Ça n'a juste pas de sens. Le corps meurt.
Le corps meurt.
Mais parce que je suis.
Comment s'il n'y a plus de corps, s'il n'y a plus de
corps. Mais à travers les milieux d'autres corps. En tant que contenant de la conscience. En tant que contenant du tout. Où est la mort ?
Et les naissances font hasard ?
Les naissances ?
Oui. C'est le hasard qui...
Hasard, en arabe, ça veut dire le doigt de Dieu. Ouais. Non pas qu'il y a un Dieu qui en est pas, j'en sais rien. Enfin, on peut en parler longtemps, mais c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que ça apparaît de fait. C'est la merveille des merveilles. Cette création est une merveille. C'est une apparition au sein de la conscience et c'est merveilleux.
Et la mère, c'est une apparition de la conscience ? Elle est
dans au sein de la conscience, bien sûr, oui.
Oui, mais
heureusement
que j'ai la mère, les oiseaux.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas que la conscience vide, moyen comme
esprit. Je dis, c'est une apparition au sein de la conscience, oui.
Si on n'avait pas de moi, justement, on serait dans le vide.
Il n'y a pas de moi, il n'y en a jamais eu.
Quel
vide ? Quel vide ?
Non, mais le jeu individu, ça permet de vivre dans cette société.
Non.
Non, mais je veux dire...
Il n'y a jamais eu de moi individu séparé, on vit quand même dans la société. Il y a une personnalité, il y a une adaptation à la société qui est conditionnée en partie.
Ça ne permet pas d'aller dans un hôpital psychiatrique, d'avoir un jeu qui peut se voir dans la société.
Attendez, là on confond des choses, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler de tout ça, parce qu'il y a des concepts qui se télescopent. C'est, tout ça, c'est des concepts, c'est affaire de définition. C'est vrai que d'un point de vue psychiatrique, une dissociation du moi, on finit en psychiatrie, ça c'est clair. Alors moi je dis, il n'y a pas de moi. La bonne nouvelle, c'est que je ne peux pas être dissocié. Mais évidemment que d'un point de vue psychiatrique, ça n'a pas de sens.
Non, mais je
ne
voulais pas...
Si. Non, mais c'est important de dire ces choses comme ça.
Et le fait d'avoir un jeu individuel, c'est le lien avec... La conscience intemporelle et puis
le... Alors comment je fais pour vivre, pour prendre le train, venir vous parler, manger, elle reste sans moi. Comment je fais ? Ben, je sais pas, mais ça se fait.
Non, vous êtes incarné, monsieur.
Mais qu'est-ce qui est incarné ? Il y a un corps mental ici qui s'exprime.
Oui, mais il n'y a rien de mal à ça. Vous êtes incarné, vous avez un corps, c'est pour ça que vous êtes là.
Mais qui vous ? De quoi est-ce qu'on parle ? Ouais, le corps est bien réel.
Non, mais...
De quoi est-ce qu'on parle quand vous dites vous ? C'est ça la question.
Oui, la conscience s'incarne. À travers Gérard.
Oui, et à travers tous les corps, tous les organismes. Oui, mais c'est la même conscience. Elle n'est pas séparée d'elle-même.
Oui.
Elle n'est pas individuée.
Oui.
Elle est pas, et en ce sens-là, on n'est pas séparés les uns des autres.
Oui. Non, mais...
Et en ce sens-là, il n'y a pas de moi individu séparé.
Il y a besoin d'être ici. Grâce au fait que vous soyez incarné dans ce corps, vous pouvez être avec vous.
Oui, mais il n'y aurait pas ça, ce serait absurde, ce serait pareil, ce serait pas grave. Ça n'a pas d'importance. Ce corps peut être là ou ailleurs, ou pas, ou peut disparaître, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça ne retire rien à ce que je suis. Il peut être malade ou en bonne santé, c'est pareil. Il n'y a aucun doute chez moi. La différence entre une croyance et qu'il peut y avoir un doute, il n'y a aucune place, c'est un su, c'est un connu, c'est un définitif.
Par exemple, si je reprends l'exemple
Ouais. L'attention se porte, l'attention se porte. Il y a quelque chose qui attire. C'est un mystère. Pourquoi est-ce qu'on a conscience à ce moment-là de telle chose et pas telle autre? C'est un mystère. Personne ne sait. Mais pourquoi poser la question du pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on se demande pourquoi? Il y a un mal-être, il y a un besoin de compréhension, de trouver du sens pour atténuer le mal-être, pour tenter de. Et donc il y a un refus de ce qui arrive tel que ça arrive. Parce que quand tout va bien, tu ne poses pas la question pourquoi.
Et sur la question de l'écologie, par exemple.
Oui.
Je sais pas, moi, c'est mon boulot de m'occuper des dates créatives, donc voilà, des analyses, je vais les donner. C'est sûr que si j'avais le pouvoir illimité, en tout cas, j'aimerais bien que ça change immédiatement.
Bien sûr, oui.
Il y a des choses qui changent, et c'est très long. Enfin, je serais que en gratuité sur les nappes, il y a une bonne inertie. C'est un peu la pour l'ensemble. Est-ce que on doit s'engager plus ou se relaxer plus? Parce que moi, je fais les deux en même temps. Peut-être que c'est ce que
mais si c'est tu veux. Plus au sein d'un rêve illusoire, peu importe ce qui se passe dans l'absolu. Dans l'absolu, évidemment, au niveau existentiel, c'est différent. C'est difficile de mettre ça en mots, mais si je mets des mots dessus, je dirais allez dans le sens de ce qui se meut en vous. Soyez au plus près de votre allant naturel. Et je ne parle pas de vos conditionnements, de quoi que ce soit. Je parle vraiment de l'allant naturel. Ce qui se meut en vous de façon naturelle. Pas normale, pas conditionnée, naturelle. Et par exemple, si c'est méditer, parce que ça vous fait du bien d'étudier, méditer. Si c'est danser, parce que ça vous fait du bien de danser, danser. Si c'est de faire de l'écologie, faites de l'écologie. Peu importe. Soyez ce que vous êtes, laissez ce que vous êtes s'exprimer tel que vous êtes. Et regardez, regardez. Vous méditez, je suis encore plus dans mes pensées. C'est pas de la méditation, ça c'est lutter contre soi-même. Je danse et puis, t'as vu comme je me suis mal pris. Ça c'est pas de la danse, c'est un jugement porté sur soi. Et si c'est dans l'écologie, c'est pareil, il faudrait que ça change, et pourquoi les autres ne font pas ci et pas ça, hein? Là, il y a des conditionnements, il y a des pensées crues. Et ce serait mieux si. Il faudrait que. Tout ça, ce sont des pensées crues.
Oui, mais en même temps, c'est des programmes d'action aussi.
Oui, mais bien sûr, donc, le programme d'action, mettez-le en place, faites tout ce que vous pouvez pour que ça passe, et soyez libre. Soyez libre du résultat. Si vous n'êtes pas libre, alors c'est qu'il y a besoin de poser le regard sur ce qui se passe. À chaque fois, il y a une invitation. Dès qu'il y a le plus petit mal-être, c'est qu'il y a une pensée crue. C'est une invitation à ce que le regard se porte dessus. Et votre voie vers l'éveil peut être l'écologie, la danse, la méditation ou n'importe quoi d'autre. Ça n'a pas d'importance.
Qu'est-ce qui se passe si vous abandonnez l'existence?
Ah, il faut, parce que c'est une stratégie. Non. Parce qu'il y a des choses, vous n'allez pas les laisser faire. Vous n'allez pas laisser l'enfant se laisser écraser par une voiture si vous pouvez le bloquer. Vous n'allez pas laisser faire. Mais vous allez laisser faire votre geste qui est de le bloquer. En ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, alors oui. C'est à laisser ce que vous êtes s'exprimer tel que c'est, tel que vous êtes. Parce qu'il y a quelque chose de foncièrement sain et naturel. Merci. Ouais. Ça, c'est ce que j'ai expliqué un peu au départ. Je saurais pas donner une réponse plus complète que celle-ci. C'est-à-dire que nous sommes conditionnés à croire dans les pensées dans notre civilisation. Tout le monde, dans l'ensemble, nous apprend à croire dans les pensées. Déjà, nos parents ont des pensées crues, nos enseignants à l'école ont des pensées crues, et ils nous transmettent leurs pensées crues, y compris à commencer par l'existence d'un moi. Hein? Et donc, on est conditionné à croire dans les pensées. Ah ouais, ok. Alors, les organismes corps mentaux sont conditionnés à croire dans les pensées. Moi, on va continuer à l'utiliser, c'est une facilité langagière. Simplement, dans mon discours, ça ne revêt pas à un individu séparé.
C'est le cœur de la question. Parce que les corps organismes,
si c'est
ça serait donc le sujet de la
croyance. Oula. Non, pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop mental.
S'il n'y a pas de sujet qui croit, il y a des contre une pensée qui est crue, une pensée qui n'est pas crue. La croyance est inhérente à la pensée, pas au sujet qui croit.
Ni à l'un ni à l'autre. Les pensées crues sont liées à des conditionnements, pour moi.
Qui est conditionné ?
L'organisme.
L'organisme croit.
Non. C'est trop dire que l'organisme croit. C'est comme s'il avait une action là-dessus. Ça croit. Le regard. Lorsque le regard se porte vraiment sur des pensées, elles sont vues comme n'ayant pas besoin d'être cru, comme ne disant rien à propos de la vérité, voire comme étant carrément fausse. Le regard. L'écoute. C'est mon préféré.
Je pense que quelque chose parle à toi, c'est que dès qu'il y a le focus de l'attention qui se met à bouger, il y a une pensée qui peut, en fait, l'identification se crée dans ce mouvement, le moi apparaît dans le mouvement du focus de l'attention. Ça veut dire si il n'y a pas de mouvement de focus de l'attention, il ne peut pas y avoir la pensée d'un moi séparé.
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux remplacer le mot regard ou écoute par le mot attention ?
Je voudrais dire que la conscience en mouvement,
oui.
Le focus de l'attention, on le déplace.
Oui.
On le déplace, on le pose sur un objet.
Oui.
À ce moment-là, le phénomène
à moi se paraître, apparaître en ce moment-là. Parce que s'il n'y a pas de mouvement de focus de l'attention dans un objet, il ne peut pas y avoir une idée de moi se paraître.
Ça, j'en sais rien. J'en sais rien.
Et c'est expérimental, parce que si la conscience ne bouge pas, c'est impossible qu'il y ait un surgissement d'un moi séparé.
Ah! Mais la conscience est immobile. J'ai jamais vu la conscience bouger. Alors,
l'attention.
L'attention peut s'orienter sur une chose ou sur une autre.
L'attention qui se déplace. Et puis, le pire, c'est que il y a après quelque chose qui apparaît qui dit c'est moi qui a déplacé le focus de l'attention.
C'est ça, c'est
illusoire, c'est ça en fait. Il surgit après le mouvement de l'attention, il dit c'est moi qui a décidé que je vais bouger mon attention sur tel objet.
Oui, peut-être possiblement, mais c'est un conditionnement de dire que c'est moi qui. Les enfants n'ont pas l'idée d'un moi. Un enfant qui se frappe contre quelque chose, tu lui demandes où est-ce que tu t'es fait mal, il dit là. Il faut lui reposer la question autrement pour qu'il montre quelle partie de son corps fait mal.
Non, je sais.
Tu vois ce que je veux dire ? Il faut le conditionner à penser qu'il y a un moi et que c'est lui, que moi je suis moi, etc.
Ça peut aider de regarder de cette façon-là que, en fait, dans la conscience, quand il n'y a pas de focus d'attention en déplacement, quand le déplacement sur un objet, il n'y a pas de force, c'est impossible. Ça veut dire la nuit qu'on dort, on ne rêve pas, il n'y a pas de mouvement de focus de l'attention, il n'y a pas
Mais dès que tu es réveillé, l'attention n'arrête pas de bouger d'un point à un autre.
Dès que tu te réveilles, on commence à bouger le focus.
Et même la nuit, dans le rêve, l'attention se déplace d'un objet à l'autre.
Alors, justement, il y a l'illusion d'un moi, parce que si un chien te poursuit dans le rêve, il y a l'idée d'un moi, et qu'un moment, dans le rêve. Donc, une fois c'est réalisé, évidemment on voit que c'est une illusion, que le mouvement de focus de l'attention.
Mais l'illusion, non, l'idée d'un moi est carrément créée de toute pièce, à travers plusieurs phénomènes. Pour moi, c'est pas juste le mouvement de l'attention qui crée l'idée d'un moi.
Si l'attention ne bouge pas.
Peut-être que si l'attention ne bouge pas, il peut pas y avoir l'idée d'un moi, mais de fait, elle se déplace tout le temps, l'attention.
Si malgré le mouvement de l'attention, on arrive à rester en même temps en arrière-plan, il ne bouge pas, dans l'avant-plan.
Mais ça, c'est ce que j'arrête pas de dire. Ceux-là qui constatent,
il n'y aura pas là.
Ou ceux-là qui est conscient de son, du fait d'être conscient, évidemment, il n'y a pas l'idée d'un moi. C'est dit autrement. Oui.
Regard.
Oui.
Pour moi, ça ne veut pas dire que le regard est à la même qualité tout le temps, toujours pour une chose. La conscience, elle n'est pas qualifiée parfois comme croyante ou parfois comme non-croyante. Je ne crois pas que je n'arrive pas à dire, en tout cas, ce que je dis, comme si le regard, enfin, que la croyance, entre croire que je suis ce que j'ai dit, je ne sais pas. Que la croyance tient à la conscience, au regard. Je crois, mais parce que je réfléchis en répondant, ce que je perçois comme ça intuitivement, c'est que la croyance est inhérente à la pensée, appartient à la pensée, au regard.
Ça, comme tu le dis, c'est ce que tu crois.
C'est ce que j'essaie d'avancer dans.
Non mais là, le truc c'est que là, tout ce que tu me dis, c'est fondé à partir de, enfin, c'est basé sur le mental. Toi, ce sont des pensées. C'est pas le regard pour moi ça. Le regard, c'est qui voit tout ce discours mental que tu viens de tenir. Et ceux-là qui voient ce discours mental, c'est comment? Ceux-là qui constatent que ça vient de dire des choses, de tenir un raisonnement, de tenter d'expliquer. Ceux-là qui constatent. Il n'y a pas de qualificatif. Mais il est complètement tranquille par rapport à tout ce discours. Et ceux-là qui constatent, a-t-il l'idée d'un moi ? Oui, est-ce qu'il a l'idée Puisqu'il a une idée quelconque, cela qui constate. Il n'y en a pas. Voilà. Et est-ce que cela qui constate que... Je ne sais plus comment tu as dit, le rapport entre les pensées et les croyances, que les croyances sont les pensées, non, les croyances sont inhérentes aux pensées. Je ne sais plus comment tu l'as dit. Est-ce que cela qui constate ça? Tu ne sais pas.
Par exemple, la pensée « je » va être vue à l'instant même comme « mon moi ».
Oui, exact, exact.
Et parfois, c'est collé.
Et parfois, ça colle, voilà. Cela qui constate.
Il y a quelque chose qui est cru, le « je » est cru, et autrefois, il n'est pas cru.
Oui.
Qu'est-ce qui fait, puisque le regard est...
Ça, c'est une bonne question. Mais pose-la depuis cela qui constate. Pardon ? Oh, mais c'est pas une question dans la tête. C'est pas une question dans la tête. C'est un regard. Attends une seconde, s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le regard, c'est cela qui constate. Ce que j'appelle le regard, c'est cela qui constate. Et tu vois, ça n'a pas d'idée sur toutes ces choses. Ça ne sait pas. Jusqu'au moment où cela qui constate voit. Où il y a vision de mince, mais il n'y a pas de moi. Ah, parfois ça croit en moi, parfois ça ne croit pas en moi, mais en fait il n'y en a pas.
Donc ça, c'est
direct.
C'est la réalisation.
C'est direct.
Comme j'ai des lunettes et je cherche avec les lunettes, et je vois que je vois parce que j'ai des lunettes, et vous connaissez là. Puisque je vois, c'est bien que j'ai des lunettes.
Alors, par exemple. Compliqué. Voilà. Par exemple.
C'est la croyance, c'est ça.
Non, ouais. Ça a toujours constaté, même quand c'est pas conscient que ça constate. C'est pas comme ça que je l'ai dit. Ah, mais bien sûr, le regard n'est pas est complètement dissocié des pensées et de la croyance. Le regard constate les pensées, constate la croyance. C'est le témoin, c'est là que je suis.
Les croyances et les pensées sont dans la même équipe, dans le monde des phénomènes.
Exact.
Voilà. Donc la pensée est une croyance. La croyance est une pensée particulière.
C'est une pensée crue. Elle est crue. Vous pouvez la faire cuire. Mais cuite, elle est pas mal non plus.
Non, quelqu'un m'a vu commencer quelque chose dans le fond.
Pardon ? Oui. Oui. Ah ok, oui. C'est vrai que cela qui constate, si on touche sa main, s'il y a une sensation, et c'est constaté. Exact, oui. Et c'est pareil, ce qui arrive avec les sensations, arrive avec les perceptions, avec les émotions, avec la mémoire, avec les pensées, avec les croyances, avec le mal-être, avec l'histoire de moi, etc. Ouais. C'est constaté. Dessus. Il y a une mise à l'écart de la chose. Le regard, pour moi, c'est comme des épousailles. Enfin, je prends plusieurs images, plusieurs termes pour ça. Il y a l'idée d'épousailles, il y a l'idée de rencontrer directement, de vivre intimement. Ça peut être explorer, être avec, mais être avec aussi comme, soit comme un explorateur qui découvre quelque chose, au microscope ou dans la jungle, n'importe, hein, mais cette idée de complète attention au phénomène, vraiment à le voir le plus près du plus près possible. Ou ça peut être comme une maman qui tient son bébé pour la première fois dans les bras. Vous voyez ? Avec tout cet amour, cette tendresse, on est complètement craqué, quoi. Zéro distance, complète implication et pas d'identification. Alors c'est complètement, pleinement vécu. Elle vit. Mais c'est bien ce que je dis. Vivre complètement, directement, rencontrer directement. Et quand je dis vivre complètement, directement, la colère, ou le fait d'être blessé, ou la peur, c'est de ça dont je parle. Comme une maman tient son bébé dans les bras, ou comme un explorateur regarde au microscope quelque chose, ou explore la jungle. Vous voyez, c'est ce genre d'image, ça dépendra des situations. Mais où c'est vraiment complètement, directement, directement rencontré. On est complètement avec. Totale implication. Zéro distance et pas d'identification. Le regard est sans pensée. Le regard est sans pensée. Il est direct. La pensée vient après coup pour formuler les choses.
Quand vous dites totale implication avec la peur ou la colère, je ne vais pas tout bien comprendre. Est-ce que ça veut dire que vous vécu pleinement, zéro distance? Est-ce que ça veut dire que mal et pas d'identification? Est-ce que ça veut dire que en même temps vous n'êtes pas affecté?
Exact, ce que je suis ne peut pas être affecté par ce qui arrive.
À ce moment-là, quand vous êtes dans l'application directe, vous n'êtes pas affecté, vous êtes impliqué totalement, vous n'êtes pas affecté.
Alors, le corps, les émotions sont là, c'est complètement vécu. S'il y a de la colère, je crie pour de vrai. Croyez-moi sur parole. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sort, la colère sort. Et ce que je suis n'est pas affecté. Le calme que je le suis. À la fois, il y a complète étreté et complète colère. Et ou n'importe quoi d'autre. Ça peut être l'amour, ça peut être la joie, l'enthousiasme, n'importe quoi.
D'accord. Et dans le cas d'une émotion qu'on va qualifier de désagréable comme la peur ou la colère, et à ce moment-là, moi, la colère, ça me fait souffrir, donc j'ai plus de la souffrance. Est-ce que dans ces cas-là, du fait que vous n'êtes pas affecté, vous n'éprouvez pas de souffrance?
Évidemment, mais c'est, pour moi, c'est pas désagréable, la colère.
D'accord.
Il n'y a rien de désagréable. Même le refus n'est pas désagréable. Parfois, ça refuse. C'est marrant. Par contre, ce qui n'arrive plus, c'est refuser de refus. Le refus du refus. Ça, ça arrive plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le refus peut apparaître de temps en temps. Tiens, ça refuse, c'est marrant. C'est marrant, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça attire l'attention. Quoi. Mais ce n'est pas refusé. C'est pleinement vécu. Ah tiens, ça refuse. Ah tiens, c'est en colère. Ah tiens, c'est triste. Ah tiens. Mais ça apparaît en moi. La différence, c'est que vous, vous croyez que ça apparaît à moi. C'est à moi que ça arrive. Moi, c'est pas à moi que ça arrive, c'est en moi. Ça, c'est très différent.
C'est quand
on a les moyens. D'autant plus que la peur est refusée. Si la peur n'est pas refusée, la peur passe très vite parce qu'elle n'a aucun substrat, elle n'a aucune raison d'être. Sauf dans des situations physiologiques normales, mais allez en face de vous qui vous mangez, le résultat, c'est construit toute pièce, la peur. Alors, ce qui se passe ici, c'est que les rares fois où la peur est apparue, d'abord, elle était beaucoup moins forte qu'avant, et ensuite, c'est « Ah tiens, c'est marrant, ça a peur. » Le regard se porte dessus. Et souvent, ça suffit. Le regard se porte dessus et pouf, se dissout. Ça épouse la peur, elle se dissout parce qu'elle n'a aucune raison d'être. Et parfois, si elle se maintient, il est arrivé une fois ou l'autre où elle se maintenait quand même, alors simplement être avec les sensations, ressentir les sensations de peur. Mais il n'y a pas de refus de la peur. Et alors, les pensées qui créent la peur, parce que la peur est basée sur des pensées crues, apparaissent. Elles sont vues comme erronées, comme fausses, tout c'est tout. Parce que vous croyez que vous avez peur de telle chose, mais en fait, il y a une pensée qui crée la peur de telle chose. Et c'est cette pensée qui a besoin d'être vue et vue comme vous.
identique, mais de en moi et à moi, ça veut dire qu'on est deux personnes, on est une réalité.
Ah, ça reste, oui. Ça, c'est malheureusement des problèmes langagiers. C'est-à-dire qu'on est obligé de garder l'idée de parler de je, me, moi, parce que c'est une facilité langagière. Donc, je vais continuer à dire je, me, moi, bien, etc. Je ne vais pas mettre à faire des périphrases à tout bout de champ. D'accord ? Ce qui se passe aussi, c'est que la focalisation s'est déplacée. Quand je dis il n'y a pas de moi, je dis spécifiquement individu séparé qui pense par lui-même, qui pose des choix, qui fait des actes, pose des actes. Spécifiquement ça. Mais on peut dire le je suis, c'est moi. Voyez-vous, Ramana Maharshi disait la pensée je, je suis, et le je avec un J majuscule. Moi je dis la pensée moi, je dis pas la pensée je suis et ce qui est. Mais à chaque fois on peut dire je quand même. Je suis et je suis ce qui est. Mais on va encore dire je. Mais c'est vrai qu'à chaque fois la définition change, ça peut perdre un peu. Mais ce qui n'existe pas, c'est un moi individu séparé. Ça, il n'y en a pas, il n'y en a jamais. C'est-à-dire que quand je dis moi, je ne parle jamais d'un individu séparé qui dit moi. Jamais de ce point de vue. Ça répond à la question. Quel est le rapport entre ce soi-même et le je me moi?
Ça fait deux personnes différentes. Mais celle qu'on a au fond de soi, on ne la sent pas forcément. Il faut... C'est la raison qu'on parle des gens, des amis, etc.
Cette intimité, elle est conditionnée. Ce soi-même est conditionné.
Il est un peu caché, alors qu'il ne voudrait pas le cacher, mais c'est
là. Il est caché par conditionnement, mais est-ce que lui, ce soi-même, il est conditionné? Ou est-ce qu'il est naturel?
Il devrait être naturel, mais pas conditionné.
Lorsqu'il s'exprime, il s'exprime de façon naturelle ou de façon conditionnée?
Ça dépend où, ça dépend.
Pas plus, c'est qu'il y a des peurs, et c'est qu'il y a des conditionnements, des protections. Donc, est-ce qu'il devrait s'exprimer plus? Allez savoir si on n'a pas ce qu'il faut pour ne pas être atteint lorsqu'on se reprend un retour de manière. L'idée, il devrait s'exprimer plus, n'est qu'une idée. On vit dans un certain monde. On est adapté à ce monde, comme vous avez dit tout à l'heure, pour fonctionner dans ce monde, on est obligé de s'y adapter d'une certaine manière. Évidemment, dans un monde idéal, ce serait mieux qu'il n'y ait pas besoin de tout ça. Mais ce monde n'est pas idéal. Il faut mieux s'enlever ça tout de suite de la tête. Donc, partant de là, eh bien, d'un côté, il est sain que de conditionner tout ça et pas laisser tout s'exprimer naturellement, parce que ce ne sera pas forcément accepté si on n'a pas ce qu'il faut en soi pour accepter le retour de Manuel qui inévitablement se produira. Peut-être c'est plus prudent de ne pas manifester tout ça pour le temps. Par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est le regard porté sur la peur, sur l'idée je dois me protéger, sur l'idée le retour de Manuel je ne pourrais pas le supporter. Parce que tout ça, ce sont des conditionnements, il y a des pensées crues là derrière, etc. Et quand j'étais petite, sûrement il a fallu que je me protège et que je cache ça, parce que sinon c'était trop grave, je ne savais pas le gérer. Mais aujourd'hui que je suis grande, je peux le gérer ou apprendre à le gérer. L'invitation est toujours là où il y a un mal-être, à regarder quelles sont les pensées crues qui créent ce mal-être. du plus petit malaise à la plus grande des souffrances, il n'y a pas d'exception. Il y a toujours une ou des pensées crues qui font qu'il y a un malaise. Si les pensées crues sont vues, est-ce qu'elles sont vues comme fausses ?
Oui, comme non nécessaires, on va dire.
Comme non nécessaires. C'est qu'elles ne sont pas vues comme fausses. Elles sont vues comme non nécessaires, elles sont vues comme causant des troubles, mais elles ne sont pas vues comme fausses. Alors elles peuvent se maintenir. Le regard n'est pas encore assez zoomé, assez microscopique.
Il y a quelque chose qui ne veut pas les...
Alors, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une autre pensée qui tient à ces pensées.
Ouais.
Quand vous regardez quelque chose, dès que un autre élément apparaît, lâchez ce que vous étiez en train de regarder et regardez le nouvel élément. Et là, vous voulez exactement faire ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne veut pas, regardez ce quelque chose qui ne veut pas. Là, il y a quelque chose qui tient le reste. C'est une chaîne. Et pourquoi ça ne veut pas ? Ça croit quoi ? Si ça lâche ça, si je lâche toutes ces pensées, alors qu'est-ce qui va se passer ?
Quelle sera la perte ?
Qu'est-ce que je perds si je lâche toutes ces croyances fausses ? Allez-y, sortez une réponse. Le premier mot, c'était stabilité, c'est ça ? La stabilité. J'ai peur de perdre ma stabilité. J'ai besoin de stabilité. À travers des pensées crues.
Et fausses.
Mes pensées crues et fausses créent une stabilité. Est-ce vrai ?
Non, mais
logiquement,
voilà.
Logiquement, je ne sais pas. Oui. Mais bien sûr, l'idée d'une stabilité, d'être quelqu'un qui tient debout avec un cadre, avec une structure qu'on appelle des pensées crues. Mais bien sûr, les pensées crues créent une structure qui va s'effondrer le jour où on n'y croit plus, ça c'est sûr.
Ça donne
quoi,
quand
ça s'effondre,
ça faudrait
pas.
Ouais.
Vous l'avez en face de vous, un exemple, hein, ce sera pas pareil pour vous.
Une star.
Mais non, pas une star. Non, il y en a plein, on n'en entend jamais parler. Et je suis pas une star. Mais je veux dire, vous en avez un exemple. Je veux dire, je crois que je suis relativement tranquille.
Il
n'y
a pas
un
film, certainement. Moi, j'ai peur du
film,
quoi.
Oui, ce n'est vite que pour le mental. Pour le mental, ça apparaît vide et ça peut faire très peur. Regardez ce vide, approchez ce vide, soyez avec ce vide, épousez-le ce vide et vous allez voir que c'est plein. C'est vide pour le mental, pas pour le regard, pas pour ce qui est, pas pour ce que vous êtes. Pour ce que vous êtes, c'est la plénitude même, vous êtes la plénitude. Oui.
Je
n'ai pas entendu.
Ma question est de quoi ?
Oui.
J'ai peur de vivre des émotions négatives qui sont négatives parce que justement, je constate que je me fais souvenir de quelqu'un, je peux me faire du mal dans le monde, je me sens beaucoup en colère parce que je sais que si je me fais du mal, il va avoir du mal.
Vivre pleinement sa colère ne veut pas forcément dire l'exprimer d'une façon violente, qui plus est. Vivre pleinement sa colère, ça veut dire « Ah oh là là, il y a de la colère là, tu vois, c'est... » Et puis si tu as peur que ça sorte et que tu ne veux pas que ça sorte, eh ben mets-toi dans ton coin, et peut-être que tout seul, si jamais tu as besoin, mais surtout, écarte-toi de l'autre, comme ça tu vas pas l'engueuler, c'est sûr. Parfois on ne peut pas. Ben, si ça sort, ça sort, c'est pas grave. Et si jamais il a mal à cause de ta colère, c'est pas toi qui lui fais mal, c'est lui qui se mal avec ses pensées crues. Toi de la tête que tu peux faire du mal à quelqu'un, tu ne peux pas. C'est simple, personne n'a jamais fait de mal à personne. Il n'y a pas un moi qui peut faire du mal à un moi, parce qu'il n'y a pas de moi. D'accord ? Et quelqu'un qui souffre, c'est qu'il a une pensée crue. Tu peux te mettre en colère contre moi, probablement que je vais adorer ta colère. Parce que je n'ai pas la croyance que tu n'as pas le droit de te mettre en colère contre moi et que c'est mal si tu te mets en colère contre moi et que je vais aimer cette énergie que tu vas sentir. Parce que c'est beau la colère à voir. Moi j'aime voir la colère chez les autres. C'est beau. Tu vois ce que je veux dire ? Ça c'est le premier élément de réponse. Tu vois, je veux dire, dégage-toi de ta culpabilité par rapport à ça et à l'idée qu'il ne faudrait pas et que je ne sais pas quoi. Et arrête de te faire du mal parce que tu t'es mise en colère. Sois béni parce que tu t'es mise en colère. Bénis-toi toi-même. C'est beau. Tu vois ? Vois la beauté de la colère. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est quand je dis rencontre directement, vis-le complètement, mais c'est intérieur. Ça n'a pas besoin d'être extériorisé. C'est tu es là et il y a la colère. Ça, tu la sens, la colère. Surtout si tu ne la sors pas. Elle est là, tu vois ? Ça crée de la tension. Tu es d'accord ? Puis ça crée des... Tu vois ce que je veux dire ? Ça, tu le sens, ça. Tu restes avec les sensations. Et tu restes avec les sensations. Et tu restes avec les sensations. Et tu les goûtes pleinement. Tu mâches. Non, non, tu ne la rumines pas, ta colère. Tu es avec. Ce n'est pas la ruminer. C'est tu es là. Et là, toute cette colère, sous cette énergie, les mâchoires crispées. Tu ne mâches pas. Tu laisses les mâchoires crispées. Tu vois ? Et tu es avec ça. Tu es là. Tu vois, tu l'as. Mais tu les pousses. C'est-à-dire que... Comment dire ? Tu vis complètement la sensation. La sensation, t'oublies le mot colère. T'oublies que t'es en colère. T'oublies les raisons de la colère. Juste la sensation.
Ça se transforme.
Ça ne peut pas ne pas se transformer. Si tu es vraiment avec, ça va forcément se transformer. Et ou bien ça s'effondre de soi-même tout seul, ou bien à un moment donné, les pensées qui font qu'il y a de la colère qui s'est créée, qui est apparue, vont apparaître. Et ces pensées alors... Regarde-les. À ce moment-là, tu lâches la sensation et tu restes avec la pensée. Mais est-ce qu'elle est vraie ? Qu'est-ce que c'est ? Souvent, ça va très vite, la pensée, elle apparaît, tu dis, quelle connerie, ça s'effondre. Tu vois, et parfois, tu as besoin d'être avec la pensée et de rester avec la pensée jusqu'au moment où elle est vue comme fausse. Jusqu'au moment où elle est vue comme fausse. Et peut-être, ça peut faire un circuit du style, mais je ne vais pas lâcher ça, il ne sera pas dit que je lâcherai, d'ailleurs, j'ai raison, et d'abord, je veux qu'il fasse ça, et je veux qu'il s'aide, et tu vois, tout ce discours mental qu'on peut avoir. Alors à chaque fois tu reviens sensation, pensée, tu remontes la chaîne et à un moment donné ça va s'effondrer.
C'est quoi la question qu'on pose quand on revient ? J'ai vécu mes sensations. Comment
on revient ? Ça se fait tout seul, c'est pas toi. C'est quand tu es avec les sensations, tu reviens, tu es simplement avec la sensation. Plus c'est chaud, plus soyez avec les sensations. Voilà. Simplement la sensation physique pure, t'enlèves le mot colère, t'enlèves l'idée de colère, t'enlèves toutes les pensées que tu crois connaître de ce qui se passe. Et juste la sensation pure, et t'es juste avec la sensation pure. Et la sensation pure, elle est toujours vivable. On peut toujours la vivre. Généralement, elle n'est même pas si forte que ça. Et simplement, et pas interprétée. Pas ça me retourne les tripes, non. J'ai une tension dans le ventre. Ça serre, ça tord, ça pique, ça brûle. Vous voyez, des mots simples. Pas j'ai le cœur brisé, non, non, ça c'est... Non, non, j'ai un frétillement dans la poitrine. À la rigueur, oui, ce que je veux dire. Et à ce moment-là, quand on est vraiment avec les sensations, à un moment donné, ou bien ça s'effondre tout seul, ou bien il y a des pensées qui apparaissent. Et alors, regardez la pensée. Il n'y a pas de question, ça apparaît. C'est le miracle du regard, c'est que les choses se dévoilent au regard. Quand le regard épouse ce qui se passe, les choses se dévoilent. Elles viennent se révéler. Et elles ne tiennent pas. Dans mon expérience, ça ne tient pas.
Est-ce que ça marche aussi avec la douleur physique ou la maladie ? Est-ce que c'est des pensées apparaissent derrière aussi ?
La douleur n'est qu'une douleur, c'est pas une souffrance. D'accord ? La douleur ne devient souffrante que lorsqu'il y a des pensées crues. Pas de pensées crues, pas de souffrance, quelle que soit l'intensité de la douleur. Et ça, c'est facile à vérifier. Imaginez que vous ayez une douleur très forte et qui dure une seconde. Est-ce que vous allez en faire une histoire ? Non. Non, mais enfin, dans l'ensemble, hein, on sait très bien qu'on ne va pas en faire une histoire. Imaginez que vous ayez une douleur lancinante jusqu'à la fin de vos jours. Ça, c'est une autre histoire. C'est pas la douleur qui fait souffrir. C'est l'idée que ça va durer, par exemple. C'est l'idée qu'on s'en fait. C'est vrai que ce soit autrement. Et j'en ai marre d'avoir mal, etc., etc., etc. Mais il n'y a pas de mal à se soigner. Il n'est pas question d'arrêter de se soigner.
Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que le fait que ça fait partie du soin, de la thérapie, de rester très très proche de la douleur elle-même, en permanence avec une douleur lancinante.
Ici, on ne parle pas de thérapie. On parle de réalisation. L'effet thérapeutique est un effet secondaire. C'est un épiphénomène. C'est pas du tout ce qui est recherché. Parce que ça voudrait dire que ça, l'idée d'une thérapie s'appuie sur l'idée que ce serait mieux s'il n'y avait pas telle et telle chose. Ici, on est là pour explorer la nature de la réalité. Je suis pas là pour que les gens se soignent. Moi qui étais un ancien psy et médecin et tout, je suis là pour rien. Je suis là pour que. Ouais, je veux dire, les mots ils mentent à chaque fois, je suis désolé, mais on ne peut pas les employer, il n'y a personne là, donc je veux dire. Et ce qui est tout le temps là et jamais là, c'est pourquoi ça ne veut rien dire, mais peu importe, si on doit mettre des mots dessus, je suis là pour que pour vous aider à orienter le regard vers la nature de ce qui est, la nature de la réalité.
Mais cette douleur physique par rapport à la réalité, est-ce qu'on l'abandonne la douleur ou on l'accompagne?
Non, pareil, il y a une douleur. Ah non, non, il y a une douleur, mais sois pleinement avec la douleur. Bien sûr. Sois pleinement avec. Et il peut se passer plein de très 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 belles choses qui peuvent même faire disparaître toute douleur. Ou pas d'ailleurs, ça n'a pas d'importance parce que la douleur, à un moment donné, elle peut devenir amusante, étonnante et merveilleuse. Alors, pourquoi pas en avoir? Ou bien, tout d'un coup, j'ai vu qu'en fait, c'est juste des courants électriques nombreux et fréquents qui donnent une impression de douleur, mais qu'en réalité, il n'y a pas de douleur. C'est une construction cérébrale. Et alors, elle s'effondre.
Si un nerf est altéré par l'autre, c'est imaginé.
C'est?
Si un nerf est altéré par antibiotique, est-ce que c'est imaginaire ou est-ce que finalement...
Alors, tout est illusoire. En ce sens-là, c'est forcément illusoire. Et d'un point de vue existentiel, il y a une douleur, il y a une douleur. On ne va pas nier la douleur.
Quand il y a difficulté à accompagner, à être avec la douleur.
Alors on regarde la difficulté à être avec. On abandonne la douleur, on regarde la difficulté. Remontez la chaîne à chaque fois. Le dernier élément qui apparaît, regardez celui-là. J'arrive pas à être avec ma douleur. Vous occupez plus de la douleur, vous n'y arriverez pas. Restez avec, j'y arrive pas à être avec la douleur. Bah oui, j'y arrive pas. Bah oui. C'est une réalité, j'y arrive pas. Et alors ? Et tout de suite, il y a des idées qui viennent, il y a des trucs qui se passent, etc.
Comment vous reconnaissez que c'est de la douleur si vous n'êtes pas identifié et que vous la jugez?
Mais ne croyez pas que parce qu'il n'y a pas d'identification, il n'y a pas vécu de tout ce qui arrive. C'est beaucoup plus vaste qu'avant. C'est-à-dire que non seulement je peux ressentir ce qui se passe ici, mais je peux ressentir plein de choses de ce qui se passe dans la salle ou ailleurs dans le monde. Je suis quelqu'un d'autre que j'ai jamais vu. Arrêtez de croire que vous êtes limité à cet organisme. Et arrêtez de croire que parce que vous n'êtes pas limité à cet organisme, vous n'allez plus ressentir cet organisme et d'autres organismes. C'est juste une croyance.
Mais comment vous l'étiquetez, douleur?
C'est une convention. On est bien obligé de nommer les choses si on peut parler de ça. C'est ressenti comme une douleur. Ça fait mal. Ça dit aïe. c'est simple. Ça, c'est simplement ça, quoi. Et si ça veut dire, ça fait tout. C'est différent. Aïe.
Oui, mais je me dis, bon, je vais peut-être chercher une gâteau, mais je me dis qu'à partir du moment où on n'est pas affecté, comment on peut reconnaître les choses, en fait, ça.
Attention, l'organisme est affecté. Pas ce que je suis qui contient l'organisme. L'organisme est la milliardième partie de ce que je suis. Il est affecté. Et je sais très bien ce que vit l'organisme. En tout cas, comme tout le monde, hein. Arrêtez de croire que c'est séparé. L'un n'exclut pas l'autre. Ça va ensemble. Il n'y a pas moi et l'organisme, c'est tout un. Pour parler des choses, je dis, il y a l'organisme, il y a le je suis, il y a ce qui est. En réalité, c'est tout un.
Oui, alors, je comprends ça dans un certain degré, parce que j'ai eu cette expérience de la pensée qui était, de moi et pas moi. Alors c'était des pensées, c'était pas une émotion. Je me dis, ça doit marcher de la même façon. Et à ce moment-là, enfin, je ne sais pas cette expérience, en fait, mais je me dis, dans cette situation, comment on reconnaît que, ah ben là, peut-être que c'est une question inutile, hein, comment là il y a de la couleur, il y a de la colère, puis là, et puis là il y a de la douleur, par exemple. C'est ça.
Mais comment vous connaissez-vous qu'il y a de la douleur ou de la colère ?
Parce que je l'ai identifié.
Mais non, ça c'est, vous croyez que c'est parce que vous êtes identifié. Il n'y a pas besoin d'être identifié pour reconnaître la colère et la douleur. C'est des... Il y a besoin d'être identifié pour savoir que je viens de froncer les sourcils ou que je viens de tourner la tête. Que le corps vient de faire ça, il n'y a pas besoin. De toute façon, il reste toujours une once d'identification, sinon ça ne prendrait plus à la tête des mots. Il y en a un peu plus qu'une once. Mais ce n'est pas grave. Ça se déroule en soi, en ce que je suis.
Ça, je comprends.
Mais quand vous allez au cinéma, vous ne reconnaissez pas la colère, l'amour, la joie et la douleur chez les acteurs ? Vous n'êtes pas identifié au personnage qui est dans le film. Parfois c'est dur de réussir à croire cette saison. Allez-y, ce sera la dernière question. Je crois qu'il est tard. Je ne sais pas quelle heure il est. Pardon ? Taoïsme. Ah, je ne connais pas bien le taoïsme, mais forcément c'est la même chose. Parce que la sagesse est millénaire. Je veux dire, ce qu'on dit, ce que je dis moi, c'est rien de nouveau. C'est quelque chose qui est répété depuis des millénaires par tous les grands sages. Mais le peu que je connaisse du taoïsme, oui, c'est merveilleux. J'ai lu il y a à peu près un an le Tao Te Ching traduit par Chia, je crois il s'appelle, un américain. C'est une pure merveille. C'est une pure merveille. Et quand on dit, par exemple, je ne connais plus les mots, mais vous saurez sûrement les dire mieux que moi, mais on dit dès qu'on parle au ment, par exemple. Et on dit aussi, je ne sais plus la phrase dans le Tao, mais c'est quelque chose comme ce qui parle du Tao n'est pas le Tao. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est insaisissable, inconnaissable, c'est la même chose. C'est juste d'autres mots, c'est une autre culture, c'est une autre époque, mais c'est évidemment la même chose. C'est évidemment la même chose. Ouais. Il n'y a pas de différence, et avec le bouddhisme c'est pareil. Il y a des concepts bouddhistes qui sont dans tous les sens là aussi, qu'on peut raccrocher au bouddhisme, au christianisme, au soufisme, au mysticisme chrétien, c'est pareil. Et en même temps, je répète ce que je disais tout à l'heure, il s'agit ici de regarder la nature de la réalité. Ce n'est pas une question de Dieu, de spiritualité ou de choses comme ça. C'est d'abord, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est réel? Et quelque part, Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Dieu est dans la création. Ce qu'on considère comme Dieu habituellement, c'est dans la création. Vu d'ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Bonsoir. Oui.
Merci.